C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Et à part après! À part après!
Allez, la cour, à part après!
Bon, ça, c'est l'audio d'une vidéo qui est en train de faire le tour de l'Internet québécois. C'est une vidéo d'une attaque de dindes sauvages à Louisville, en Mauricie. C'est devenu viral. Les deux femmes, bon, vous l'avez entendu, commentent ce qu'elles voient. Puis ce qu'elles voient, c'est un monsieur qui court sur le trottoir autour de son auto et il essaie d'échapper à une dinde noire particulièrement agressive. Je vous en parle parce que, je le sais, là, il y a des dindes noires un peu partout au Québec. Ça devient, je ne veux pas dire un problème de sécurité publique, mais c'est souvent, disons, un enjeu de nuisance publique. Le maire Yvon Deshaies de Louisville est au bout du fil. Monsieur Deshaies, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous?
Moi, ça va bien, mais écoutez, chez vous, les dindes noires sont un problème de sécurité publique qui nous a même forcé à appeler la SQ.
Ben, écoutez, c'est rendu que c'est la loi des dindes maintenant. Là, c'est épouvantable. Effectivement, la police est allée hier, mais ça n'a pas de bon sens. La Sûreté du Québec, avec leurs 9 mm, elles n'ont pas tiré. J'ai appelé la faune m'a répondu. Ils ont dit, monsieur le maire, Québec, deux autres gentils. Monsieur le maire, c'est normal, c'est leur territoire un petit peu. Là. Et puis, mais il ne faut pas les approcher, il ne faut pas les nourrir. Ça va se placer, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur, monsieur le maire, c'est pas dangereux. Ça n'a pas de maudit bon sens. En ce moment, je vous le dis, je suis déçu. Je suis très déçu de ce qui se passe, mais c'est épouvantable.
Monsieur Deshaies, c'est quand même des grosses bêtes, là. C'est de 5 à 10 kilos, là, à peu près 22 livres. L'envergure des ailes, ça peut être jusqu'à 5 pieds. Est-ce que c'est nouveau que vous avez un problème de dinde noire à Louisville?
Bien, depuis quelque temps, nous en avons, mais maintenant, elles sont dans le centre-ville. Puis vous savez que les griffes, là, les griffes, c'est comme des lames de rasoir. Alors, quand on me dit que c'est pas dangereux, là, c'est pas vrai. C'est une belle sauvage. Là, ça a commencé à attaquer un peu. Les enfants ont peur. Les familles viennent me voir. Savez-vous le mot d'ordre que j'ai donné demain? La faune ne bouge pas. Je n'en veux pas. Il ne bouge pas. Demain, j'ai donné l'ordre. Les gens de Louisville, prenez-vous des battes de baseball et c'est fini. On met fin à ça. Parce qu'il y en a un, là. Présentement, il y en a un mort qui est très dangereux. C'est lui qui attaque un peu. Alors, monsieur Lagacé, il faut que je quitte. Il y a une urgence capitale en urgence. Okay. Je m'excuse, monsieur Lagacé. Correct?
D'ailleurs, bonne chance avec les dindes.
Merci.
OK, bye bye. C'était le maire de Louisville, Yvon Deshaies. Vous l'avez entendu. Problème, c'est pas un problème de sécurité publique, mais c'est une nuisance publique. Et c'est pas la première fois qu'on parle de dindes. Écoutez, il y a quelques années, il y a un reportage de TVA en Outaouais qui était devenu viral, célèbre aussi. Pourquoi? Parce que il y a une citoyenne qui était interviewée parce qu'une dinde s'était infiltrée dans sa maison. On va en écouter un extrait.
J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire. Ça fait kaboum. Il s'en vient en bas. Je criais. Il y a une bébite noire dans le salon. Elle a même fait des selles dans la maison. J'ai juste ce film-là dans ma tête. Elle va revenir, la dinde noire.
Pierre Gingras est notre ami spécialiste du vivant. Salut, Pierre.
Oui, je ris un peu parce que je trouve ça, je trouve ça à la fois sympathique et à la fois traumatisant pour les gens.
Ben, je comprends.
Je fais une correction. Le dinde noir, un dindon, c'est noir en partant. Les dindons qui sont blancs, c'est des dindons domestiques. Pour faire la distinction.
Bon, comment on appelle ça d'abord? Un dindon sauvage?
Un dindon sauvage, oui, ce serait mieux.
OK.
L'histoire de sémantique étant réglée.
L'histoire de sémantique étant réglée, Pierre, explique-moi pourquoi c'est agressif comme ça, un dindon noir.
Bon, d'abord, les dindons, effectivement, règle générale, c'est pas agressif, mais il y en a toujours qui sont agressifs, effectivement, sur un lot. Si tu as 100 dindons, puis il y en a un qui est agressif, c'est évident que tu vas retenir celui qui est agressif parce que effectivement ils vont se mettre à courir. Là, il faut faire attention parce que le maire parlait d'attaque, puis le maire, manifestement, est un peu désemparé vis-à-vis de ça, je comprends aussi. Mais il faut bien comprendre que attaquer, puis courir après quelqu'un, c'est pas tout à fait pareil. Ça peut donner le même résultat si tu t'en parles, puis tu tombes, si y a un enfant qui a peur, ou une personne âgée qui, effectivement, ça arrive à l'occasion. Tes personnes âgées réagissent mal, puis ils vont tomber au sol, oui. Puis le oiseau peut picoter dessus.
Non, mais attends, oui. Pierre, attends, j'ai vu la vidéo, je sais pas si tu l'as vu, là, de ce qui a été tourné à Louisville. Monsieur a l'air d'avoir peur, puis l'oiseau est assez agressif quand même. Là. Puis tu sais, ça peut peser jusqu'à 22 livres.
Non, mais je sais qu'il y a des oiseaux qui sont agressifs. Là. Aux États-Unis, il y a des centaines d'attaques à chaque année sur des personnes, adultes, enfants, souvent les enfants, parce que les enfants, c'est de petite taille, ou les gens âgés, qui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui vont tomber à la suite d'un dindon qui les poursuit. Bon, qu'est-ce que tu veux, je te dis? composer avec la nature, c'est pas toujours évident. Dans le cas des dindons, c'est parfois plus difficile que pour d'autres bêtes, que pour les chevreuils notamment.
OK, et Pierre, est-ce qu'on les voit, est-ce que c'est une impression qu'on a où ils sont en effet, disons, ces dindons sauvages le plus souvent en train de se promener en milieu urbain proche des humains?
Bon, c'est des bêtes qui effectivement s'adaptent très très bien aux conditions urbaines ou périurbaines. Et c'est le problème d'ailleurs, parce que comme ils fréquentent, si on peut dire, énormément de gens, de populations, ils deviennent un peu moins craintifs. Et les individus qui, eux, sont agressifs de nature, il y en a certains, comme je t'ai mentionné tout à l'heure, mais eux vont avoir tendance, effectivement, peut-être à attaquer plus souvent. Ça, c'est clair et net, on sait ça. Il en reste pas moins que ça reste l'exception, mais il suffit d'une exception pour amener tout un émoi. Puis comme tu dis, à Louisville, ben, c'est un émoi. Là, on parle des griffes qui tranchent comme des couteaux. Mais là, moi, je connais un peu les oiseaux, puis il y a beaucoup de griffes d'oiseaux qui, effectivement, sont très coupantes, sont pulées. Mais je m'inquiéterais pas trop pour ça. Puis là, s'il va se lancer dans une attaque au bat de baseball, selon son expression, ben là, c'est peut-être pas la bonne méthode. Là. C'est effectivement, c'est qu'un oiseau, un dindon court après toi, une des bonnes façons de contrer la chose, c'est que tu te mets à gigoter au coton avec tes bras, tu cries, tu y fais peur, puis plus que ça, dans certains cas, on va dire, fonce directement dessus, puis tu vas voir qu'il va se sauver. Là, tu vas dire, c'est une chance que je vais prendre. Mais je vous signale qu'un dindon, là, c'est pas un lion, c'est pas un puma ou rien de ça, c'est un dindon. Ça
okay.
reste un oiseau.
Attends. L'ours noir, il faut se coucher à terre, je pense, ou l'ours brun, lequel?
Ah non, l'ours noir, je m'étends pas, ça, c'est le cas de le dire, je m'étends pas.
Okay.
Je me suggère pour la raison suivante, parce que il y a toutes les hypothèses possibles et imaginables, et il n'y a pas un ours, comme il n'y a pas une bête, qui va réagir de la même façon.
Okay.
On a des cas de mortalité flagrants chez les ours, mais là, dis-moi pas comment ils ont réagi les gens qui sont fait attaquer.
Non, mais regarde, les ours, on sait qu'il faut pas sauver, en tout cas. Fait que ce que tu me dis, c'est que le dindon sauvage, la dinde noire, il faut la charger au contraire.
Ça, c'est des objectifs qu'on moi j'ai regardé les sites américains avant que de te parler. J'ai fréquenté quelques sites américains pour savoir, parce qu'aux États-Unis, il y en a des millions, il n'y en a pas des centaines, il y en a des millions. Donc le problème est répandu partout. Puis une des hypothèses qu'on avance, ou une des solutions qu'on avance pour contrer la bête, mais c'est ce que je viens de te dire, tu peux foncer dessus, aller jeter des bras. Si effectivement, là ça fait bizarre à dire, mais un parapluie, là si mettons t'es chez vous, il t'attaque dans ta cour ou il veut aller dans ta cour, ben ouvrir un parapluie en criant, en faisant tous ces gestes-là, ça donne des bons résultats. Puis effectivement, ben si c'est un bâton ou quoi que ce soit, tu peux frapper la bête pour t'en débarrasser. On y va là-dessus.
Dernière question, Pierre. Est-ce que c'est bon du dindon sauvage?
Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon du dindon sauvage. Il y a de la chasse au dindon sauvage. Il y a 25 000 personnes qui prennent un permis de chasse à chaque année. L'année passée, c'est le cas, 25 000 pour chasser le dindon. Et ils en ont abattu une dizaine de mille. Là, la population au Québec, au moment où je te parle, j'ai aucune idée, parce que c'est assez vaste. Il s'étend de plus en plus du territoire. Effectivement, en banlieue, comme souvent les gens les nourrissent, soit en passant,
ouais.
Effectivement, il se crée des petits problèmes. Mais c'est une bête sympathique, soit dit en passant. Moi, j'aime les dindons.
Merci, Pierre.
À la prochaine.
Salut, bonne journée.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Je veux dire quelques mots sur le système de justice. Les juges, notamment, mais pas juste les juges, dans le système, parlent souvent du principe de confiance du public envers le système de justice. C'est un principe important qui est souvent invoqué pour justifier toutes sortes de décisions devant les tribunaux. Mais justement, parlons-en du principe de la confiance du public dans le système de justice. J'ai deux exemples, deux cas à vous donner qui sont passés dans l'actualité. Ronald Webb a été tué en mai 2022 d'une façon épouvantable dans le stationnement d'un resto-bar à Richelieu. Dans le restaurant, il a parlé à un enfant qui était là, et ce fut très bref. Le père de l'enfant a vu ça, et il a décidé que M. Webb était un pédophile. Et il s'est mis à l'insulter dans le restaurant avec un de ses chums. À tel point que M. Webb a trouvé que c'était une bonne idée de s'en aller. Ben, les deux lascars l'ont suivi dans le parking. Il y a eu un premier coup de poing. Il y a eu un deuxième coup de poing. Et le deuxième coup de poing a tué M. Webb. M. Webb n'était pas un pédophile, il n'avait pas d'antécédent en la matière. On est devant probablement deux gars imbéciles, sans testostérone, qui ont décidé qu'ils avaient vu un pédophile, qu'il n'était pas un pédophile. Donc, écoutez, Adam Jourdonnais et celui qui, avec Sébastien Vallée, ont suivi Monsieur Webb dans le parking. Vallée lui donne un premier coup. Jourdonnais lui donne le deuxième coup, fatal, coup de poing au visage. Et là, ça a été établi. Il n'avait rien fait, Monsieur Webb. Il n'y avait pas lieu de l'invectiver. Il n'y avait pas lieu de le poursuivre dans le parking. Il n'y avait pas lieu de le bousculer. Il n'y avait pas lieu de le battre. Et il y a eu un procès. Et là, on est arrivé au terme du procès. Adam Jourdonnais, le meurtrier, a plaidé coupable. La sentence à laquelle il s'expose, pensez-y une seconde, ça mérite combien de temps en prison, quelque chose comme ça? Ben, au Québec, la recommandation de la Couronne, c'est 30 mois de prison. Donc, ça se peut que le juge décide d'y aller avec une sentence plus lourde, mais ce serait étonnant. Ça veut dire que s'il est gentil en prison, M. Jourdonnais, il va sortir après 10 mois. Je veux juste souligner une affaire. Pour ce qui est de la confiance du public envers le système de justice, c'est un principe dont les juristes se gargarisent beaucoup. Mais quand je vois des sentences comme ça, je pense que ça piétine le principe de confiance du public envers le système de justice. J'en ai parlé il y a quelques semaines pour un autre cas épouvantable. C'était le cas d'un ivrogne récidiviste du volant, qui a fait le fou sur la route et qui a tué quelqu'un. On était dans les mêmes eaux. Je pense que dans ce cas-là, là, c'était encore une fois autour de 30 mois de prison pour un récidiviste, pour un gars qui avait un dossier en la matière. Je trouve qu'on est extrêmement permissif avec les gens qui sont dangereux, qui mettent la vie d'autrui en danger dans notre système de justice. Deuxième cas, ça nous vient de Sherbrooke, c'est sorti aujourd'hui. C'est un type qui, lui, son hobby depuis quelque temps, c'était d'aller sur le chemin Sainte-Catherine à Sherbrooke et de lancer des roches sur les voitures qui passaient. Et quand je dis de la roche, c'est pas juste des petites pierres, c'est pas de la garnotte, là. C'est des roches. J'ai vu les photos de pare-brise qui ont été fracassées. Ça peut être dangereux. Ça peut être extrêmement dangereux. Écoutez, il y a eu une cinquantaine de plaintes. Cinquantaine de plaintes au fil des semaines et finalement, la police a pogné le gars. Le gars s'appelle Jonathan Corriveau, 44 ans. Il a été arrêté lundi matin. Lundi soir, il a été arrêté encore. Ben oui, vous avez deviné pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il a recommencé à lancer des roches, encore une fois, sur des chars. Pourquoi il a été libéré? T'as un gars qui lance des roches à plus de 50 reprises. Puis ça, c'est en fonction des plaintes. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas porté plainte. Clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce gars-là. Mais il est libéré. Et le soir même, lance encore une roche. Je suis étonné qu'on ne l'ait pas interné. Je suis étonné qu'on ne l'ait pas gardé en dedans. Si tu l'as fait 50 fois avant de te faire pogner, c'est pas comme si tu avais décidé que tu niaisais avec un de tes chums, tu lançais une roche à un de tes chums, puis whoop, ça tombe en bas du viaduc, ça pogne un char, c'est un accident. 50 fois, volontairement. Non, on va te relâcher ce jour-là. Et on attend quoi? N'attends-tu que le gars prenne une brique la prochaine fois? C'est déjà arrivé des gens là qui se font tuer parce que des imbéciles lancent des gros objets sur la voie routière. Je trouve qu'au Québec, on est extrêmement permissif avec des gens qui mettent la vie en danger. Il y a des choses que je comprends. Je veux pas que tout le monde ramasse 20, 25 ans de prison pour n'importe quoi. Même dans le cas de bagarre qui vire mal, deux gars sous qui sont également à blâmer pour une bagarre, ben ça se peut que si... tu portes un coup puis que l'autre tombe puis se tue parce que tout le monde est à blâmer, je comprends que tu vas ramasser 30 mois de prison. Mais quand tu poursuis dans le parking quelqu'un qui n'a rien à se reprocher et que tu le tues d'un coup de poing, honnêtement, 30 mois de prison, probablement 10, donc moins d'un an si tu es gentil en prison puis que tu fais tes devoirs, je trouve que c'est envoyer le signal que la vie humaine aux yeux du système de justice vaut pas grand-chose. Donc, message aux avocats, message aux juges. Quand vous nous dites que c'est bien important, bien, bien important, le principe de la confiance du public envers le système de justice, commencez donc par regarder justement les sentences que vous donnez aux gens qui mettent la vie des autres en danger.
Patrick Lagacé, en accéléré.
OK, après avoir affirmé que Québec en faisait assez, ben la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a finalement fait une annonce aujourd'hui à Rivière-du-Loup. On sait qu'il y a beaucoup de pression sur les élus du municipal et il y a beaucoup de pression en retour sur Québec pour qu'on fasse quelque chose. Et dans l'annonce a été faite à Rivière-du-Loup et c'est que le Bas-Saint-Laurent est la région qui compte le plus de démissions depuis les élections municipales de 2021. Donc, Québec va notamment accorder une somme de 2 millions de dollars sur une période de 5 ans pour offrir plus de soutien psychologique aux élus. Guy Caron est maire de Rimouski. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, comment ça se passe dans votre ville, les relations entre les citoyens et les élus?
Entre les élus, elle va très bien. On est tous indépendants. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de coups de chest ou quoi que ce soit.
Comme à Québec.
Comme à Québec, oui, effectivement. On a une dissension, effectivement, mais on a du respect les uns et les autres. Il n'y a jamais eu de problème. Avec les citoyens, il y a quelques dossiers, je dirais l'avenue du Costco, entre autres, le projet de développement résidentiel dans ce qui est un boisier actuellement, qui irrite, en fait, des environnementalistes qui pensent qu'on ne devrait pas absolument pas développer dans un milieu naturel. Où il y a une espèce d'entente aussi avec des groupes qui sont plus anarchistes, qui ne reconnaissent pas nécessairement la légitimité démocratique du conseil municipal. Et donc, ce sont des gens qui viennent d'un côté et de l'autre très régulièrement au conseil municipal pour challenger le conseil sur les décisions qui sont prises sur ces enjeux-là.
OK. Ces gens-là viennent et qu'est-ce qu'ils font?
Ça varie. Des fois, ils viennent simplement poser des questions, puis on a, dans notre règlement de régie interne, une période d'une heure pour des questions. Alors, on tente du mieux possible de répondre. Des fois, les questions sont sarcastiques et on sent une note de mépris, mais on l'absorbe et on l'accepte.
Ça fait partie du travail.
Ben effectivement, mais d'autres éléments comme lundi par exemple, et là ça a fait les manchettes, c'était davantage que ça, c'était une tentative de vraiment déranger le fonctionnement du conseil municipal avec bon des bruits qui nous empêchaient de procéder. Et lorsque j'ai demandé à ce que ces bruits-là cessent, ben à ce moment-là, l'une d'entre eux a décidé de faire un discours de sa chaise et qui enterrait tout le monde, et de l'autre côté, un autre militant a sorti une bannière, donc carrément pour empêcher le déroulement du conseil municipal.
Mais quand vous dites que ces gens-là, dans l'assistance, faisaient des bruits, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Initialement, comme on parle ici du boisé, ben ce sont des gens qui ont fait une espèce d'étude de point de vue environnemental pour identifier les espèces d'oiseaux, donc un bioblitz. Et donc, on a amené des enregistrements de cris d'oiseaux. Initialement, lorsqu'ils ont commencé, ça a été très doux. Ça nous a attiré des sourires parce que c'était comme un bruit de fond qui était correct. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la séance, les bruits augmentaient. Et donc, à un moment donné, c'était juste impossible de pouvoir lire les résolutions, de pouvoir s'adresser non seulement à la salle, mais à la télévision, parce que nos séances sont télévisées. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de demander de mettre fin à ce dérangement. Puis il n'y a pas eu de respect de la directive de la part de ces activistes.
OK. Puis là, il y a cette dame qui se lève dans l'assistance pour faire un discours improvisé. Évidemment, le conseil municipal ne peut pas poursuivre ses travaux. Quels sont vos leviers présentement pour, disons, discipliner ces gens-là qui perturbent le conseil?
On en a peu. Là, dans ce cas-ci, on a décidé de se retirer. Puis, pour la troisième fois depuis l'élection de 2021, on a demandé à la Sûreté du Québec de venir. La Sûreté du Québec peut venir pour contrôler. D'ailleurs, on a eu une séance à l'été 2022 où une trentaine de militants cagoulés, je dirais d'extrême gauche, parce qu'ils s'identifiaient comme tels, menés par Fred Dubé, l'ancien humoriste, qui était venu envahir le conseil municipal. Il a été arrêté pour 5 chefs d'accusation pour lesquels il a plaidé coupable. Donc, c'était une des fois où la Sûreté était intervenue et on avait un deuxième incident également où la Sûreté a dû être appelée. Donc, c'est la troisième fois qu'on le fait. En termes de recours que nous avons, écoutez, on a dans notre règlement la possibilité de donner une amende de 100 $ pour un non-respect des directives du président de l'Assemblée qui se trouve à être le maire, avec 200 $ comme récidive. Autrement, les mesures qu'on peut mettre de l'avant, c'est le contrôle de l'identité des gens qui entrent. Mais ça, malheureusement, l'inconvénient de ça, c'est que ça décourage les gens de venir parce qu'ils se disent « je suis pas vraiment intéressé à me faire carter, je suis pas vraiment intéressé à me faire identifier en allant au conseil municipal ». Donc, c'est des mesures qui, en fait, découragent la participation démocratique. On peut pas interdire des citoyens de venir, ça c'est clair, puis la loi nous l'interdit. On a vu un cas assez constant où même si un citoyen s'était attaqué à la greffière de façon physique, ça a pris des recours juridique extrêmement long pour avoir une injonction qui devait être renouvelée au 10 jours jusqu'à ce que finalement il y ait eu une injonction accordée pendant un an. Mais généralement, les cours ne permettent pas aux villes d'empêcher des citoyens, même quirulants, même agressifs, de venir assister. Alors, C'est la raison pour laquelle je vois un bon oeil. En fait, outre l'annonce qui a été faite par la ministre Laforêt aujourd'hui, le fait qu'ils explorent différentes possibilités au point de vue législatif pour permettre aux villes d'avoir un peu plus de pouvoir dans ces situations.
OK. Vous avez dit d'ailleurs là, à cette conférence de presse de la ministre Laforêt, on espère des mesures législatives. Qu'est-ce qui vous aiderait?
Bien, écoutez, on est, comme je disais, on est comme encadré par une série de lois. On dit souvent que les municipalités sont comme des adolescents, puis on doit demander les permissions de Québec pour à peu près tout faire. Mm-hmm. Bien, c'est le cas sur la conduite de nos conseils municipaux. On a des éléments dans la loi sur les cités et les villes qui nous disent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais entre autres, si on a des citoyens qu'on sait que de façon répétitive, ils ne viennent que pour faire de l'obstruction systématique sur la conduite, s'ils viennent et que leur conduite intimide les autres citoyens dans la salle, on n'a pas de recours autre que de leur demander de sortir ou encore de recourir à la force policière pour les faire sortir. Alors, si nous avions une possibilité, soit d'avoir du financement, de pouvoir interdire la présence de ces gens-là pendant une période temporaire, le temps qu'on puisse procéder à nos affaires et qu'ils puissent comprendre que leur comportement est inacceptable, c'est le genre d'élément que je pourrais voir au point de vue législatif pour nous empêcher d'avoir à recourir aux voies juridiques constamment.
OK. Il y a beaucoup d'élus qui ont démissionné. Il y en aurait 741 depuis la dernière élection municipale au Québec en 2021. Votre théorie, c'est quoi? Pourquoi tant de désertions?
Ben, il y a clairement dans une frange de population, puis je ne veux pas placer la population dans son ensemble, mais depuis la COVID en particulier, alors que tout le monde avait l'opportunité de dire à peu près n'importe quoi sur n'importe qui en ligne, ben ce comportement, j'ai l'impression qu'il se répercute dans la vie d'après COVID. Ce qu'on voit présentement, puis j'étais député fédéral avant, j'étais pas dans la politique municipale, mais je suivais quand même ce qui se passait. Il y avait quand même un respect de la fonction, il y avait un respect du travail, de l'œuvre qui était accomplie, non seulement par les conseils municipaux, donc par le politique, mais aussi par l'administratif qui met vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Et aujourd'hui, on sent, surtout de la part d'une frange plus radicale, qu'il n'y a pas vraiment ce respect, qu'il n'y a pas vraiment cette reconnaissance, en fait, du travail qui est accompli. Puis on comprend qu'il y a des éléments qui sont polarisants. On l'a vu dans une couple de municipalités où les taxes foncières ont monté de façon très, très élevée. C'est normal qu'à l'occasion, il y ait des salles de conseils municipaux qui soient remplies de gens qui sont frustrés de décisions qui ont été prises. C'est correct, c'est partie de la game. Mais c'est lorsqu'on arrive systématiquement à ce qu'une décision qui est prise par un conseil municipal légitimement élu, qui n'est pas unanime, puis on le reconnaît que c'est rare les situations où on a une unanimité, mais que la portion qui est vraiment la minorité marginale tente d'empêcher le fonctionnement démocratique, ben c'est ce qu'une législation ou c'est ce qu'un des outils qui soient donnés au municipal devraient nous permettre d'adresser pour aider la vie municipale à être plus accessible à la population en général. Et présentement, elle l'est de moins en moins.
La colère des citoyens, bon, elle s'exprime parfois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., des courriels qui peuvent être assez raides. Dans le réel, quand vous allez à la banque, quand vous allez à l'épicerie, M. Caron, est-ce que les citoyens sont aussi agressifs?
Non, au contraire, c'est ce qui nous encourage vraiment beaucoup parce qu'on, dans la vie quotidienne, je veux me faire connaître partout à Rimouski, bien sûr, mais les gens sont hyper cordiales, sont vraiment bravo. Puis en fait, ils me félicitent pour ma patience envers ces individus et ces groupes. Et je suis reconnu pour avoir beaucoup de patience parce qu'au départ, dans la première année, même les deux premières années, j'essayais d'établir un dialogue avec ces gens plus activistes de gauche sur différents éléments, que ce soit le développement résidentiel ou que ce soit sur le développement de Rimouski dans son ensemble. Alors, j'ai démontré beaucoup de patience, mais les citoyens disent vous n'avez trop de patience. Il faut à un moment donné que vous puissiez fonctionner et on vous a élu pour agir. Alors, je dirais que la réaction générale est très positive de la part des gens. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment pas peur d'aller à l'épicerie. Ça me fait même du bien. Et c'est là qu'on réalise aussi qu'il existe une majorité silencieuse, alors que la minorité, elle, la marginalité, elle est extrêmement brillante et c'est elle qui fait les manchettes.
Merci d'avoir été avec nous, M. Caron. Je souhaite une bonne journée.
Grand plaisir à vous aussi. Au revoir.
À la prochaine. C'était Guy Caron, le maire de Rimouski. Il a été aussi député du NPD. La ministre Laforêt a aussi annoncé là, que Québec va donner 2 millions de dollars à l'Union des municipalités du Québec et aussi à la Fédération québécoise des municipalités, notamment pour mettre sur pied une sorte de service d'aide psychologique pour les élus. On sait que c'est pas toujours facile et les élus ne sont pas des employés. Il n'y a pas de programme d'aide aux employés. Par exemple, donc là, il y a un début de, disons, d'appui psychologique. C'est pas tous les élus qui en ont besoin, mais des fois, la vie publique, disons que ça peut mettre beaucoup de pression, non seulement sur les élus, mais aussi sur les bouches.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va parler d'homophobie dans les écoles secondaires au Québec. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la journée des chandails roses, journée qui vise à sensibiliser contre les ravages de l'intimidation. Et on sait, manifester son homophobie, ben c'est une forme d'intimidation. Il semble qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans les écoles secondaires, même au Québec. Et il y a des organismes qui s'inquiètent d'une montée de violence et d'intimidation contre les jeunes de la communauté LGBTQ. Il y a un texte qui a beaucoup circulé depuis deux jours, qui fait état de situations troublantes. Ça a été rapporté par la journaliste Anne-Sophie Poiré pour le journal, pour le média, pardon, 24 heures. Yves Roy est professeur d'éthique et culture religieuse dans une école secondaire de Montréal. On l'a reçu il y a quelque temps à l'émission et je l'ai vu, Yves Roy, dans le documentaire présenté sur UniTV il y a quelques mois, Garçon, un film de genre du réalisateur Manuel Foglia. J'ai pensé que son son de cloche pourrait être utile sur ce sujet-là. Monsieur Roy, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Roy, vous faites partie vous-même de la communauté LGBTQ. Vous êtes prof d'éthique et culture religieuse. Quand il y a des témoignages comme ça qui circulent, qui montrent que dans nos écoles, chez les jeunes, il y a, semble-t-il, de plus en plus de manifestations d'homophobie, comment vous réagissez?
Ben malheureusement, je vous dirais, je suis pas surpris dans le sens que c'est ce que je vois moi-même là de toute façon dans ma propre école. C'est un phénomène qui est là et qui prend beaucoup de place avec les médias sociaux et tout ça. C'est sûr que c'est amplifié. Dans le fond, on en parle davantage. C'est ça.
Monsieur Roy, ça fait combien de temps que vous êtes prof?
21 ans.
OK. Il y a 21 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, est-ce que vous constatiez les mêmes phénomènes d'homophobie à l'école que vous constatez aujourd'hui?
Bien, en fait, c'était pas la même chose. C'est sûr que moi, bon, j'étais à Saint-Jérôme dans le temps quand j'étais dans une école secondaire. Ouais. Maintenant, comme élève, comme enseignant, j'étais dans Outremont et tout, dans une école où il y avait peut-être un peu plus d'ouverture et tout. Bon, les gens étaient, tout le monde était différent et tout. Maintenant, ça se manifestait pas de la même manière. Présentement, malheureusement, je serais porté à dire que c'est pire dans le sens que ça devient de plus en plus polarisé.
Qu'est-ce que vous voulez dire par polarisé?
Ben, alors qu'on pouvait avoir dans le temps des personnes qui étaient mal à l'aise ou pas à l'aise, mais en fait pas contentes dans le fond. Par exemple, il y avait peur des personnes homosexuelles et autre chose. C'était des choses qui ne se disaient presque pas. À la limite, c'était des cas isolés et tout. Alors que là, présentement, ouvertement en classe, il y en a qui vont carrément avoir des propos qui n'ont absolument aucun sens. Ils vont avoir des comportements dans les salles communes, casiers, cafétéria et autre chose qui fait aucun sens non plus. Puis ça, c'est des propos, c'est des situations qui sont observées, même dans plein d'autres écoles aussi. Donc, c'est un peu ça que je trouve quand même alarmant.
OK. Yves Roy, je vous ai vu dans le documentaire fascinant de Manuel Foglia, Garçon, oui. Un film de genre. Ça a été présenté sur Uni. Je fais le topo, là, c'est deux écoles. Là, une école en Gaspésie, si je me trompe pas, et une école aussi à Montréal, où vous travaillez. Et là, oui. Les jeunes de ces deux écoles-là vont se rencontrer. Et l'intolérance face aux Québécois, face à l'autre, l'intolérance face à l'homosexualité, ça vient pas des régions dans le film. Ça venait de votre école, une école montréalaise. Qu'est-ce qui explique ça, vous pensez?
Ben, effectivement, il y a une grande différence. Il faut comprendre aussi que, dans le fond, les écoles montréalaises, c'est une réalité, dans le fond, la loi 101 et tout, les gens qui débarquent ici, à moins d'avoir fait la démonstration qu'ils étaient dans une école anglophone, une éducation anglophone, ils viennent tous à l'école française. Autre chose, il faut comprendre que, bon, dans mon école, il y a quand même une très grande prépondérance de communauté arabophone. Il y a des gens qui arrivent ou, s'ils sont nés ici, leurs parents arrivent de pays où est-ce que l'homophobie, l'homosexualité, les personnes trans, c'est non seulement intoléré, tabou, voire presque criminalisé. Fait que les jeunes nous arrivent dans les écoles avec cette espèce de mentalité-là qui arrive de la maison, qui arrive de la culture d'origine, pas celle des jeunes, parce que les jeunes, je veux dire, moi, je parle à mes élèves d'où est-ce qu'ils viennent, puis qu'ils me disent qu'ils viennent du Maroc, qu'ils viennent de l'Égypte, tout ça, mais qu'ils sont nés ici. On parle de la culture familiale, on parle de la culture identitaire.
OK. Ce que je constate, puis vous n'êtes pas le premier à me le dire, c'est souvent dans les écoles à Montréal, là, ces manifestations-là, ça vient souvent de jeunes qui sont racisés, qui sont eux-mêmes la cible de préjugés par d'autres canaux, mais eux-mêmes en ont, par exemple, par rapport aux homosexuels.
Oui, tout à fait. C'est un des tabous qui est très fréquent, effectivement, dans ces groupes-là.
Comment on détricote ça?
Comment quoi?
Comment on détricote ça? Comment on défait ça?
Ah, mon doux! Mais je trouvais ça drôle parce que quand vous m'avez présenté, vous avez dit j'enseignais l'éthique culture religieuse. Cette année, nous, à notre école, on a fait le choix d'aller de l'avant puis d'embarquer dans le cours de culture citoyenneté québécoise. Puis, ce que j'aime bien par rapport à ces élèves-là, arriver dans suite dès le début, c'est de leur dire, ben écoutez, la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec la situation, ça change strictement rien. On est au Québec. Au Québec, le mariage gay, il est permis, il est accepté, il est encouragé. Ce n'est pas quelque chose de criminel. C'est une réalité. C'est les personnes qui font partie de ces communautés-là, c'est des personnes qui sont tout à fait normales. Et ça choque. C'est sûr que ça va choquer certaines personnes. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut pas victimiser les gens en pensant que ça va faire que les autres vont faire plus attention à. À un moment donné, je pense qu'il faut les normaliser, puis simplement dire, regarde, c'est des personnes qui sont normales, puis c'est correct, puis à un moment donné, on vit en société, c'est ça la réalité.
OK, puis quand vous leur dites ça, comment ça passe, oui. Comment c'est reçu?
Ben, on va dire les choses comme elles s'appellent vraiment, hein? Je fais 6 pieds 3, puis j'ai 285 livres. Disons que j'ai un certain argument d'autorité qui passe un peu plus que si j'étais pas comme ça.
Mais c'est quand même
sûr que les jeunes vont être plus gênés à s'opposer à moi, mais j'ai des collègues qui ont pas cet avantage-là, appelons-le de même, puis ça passe pas, puis ils se le font dire en pleine classe, puis les élèves sont pas d'accord.
Mais c'est quand même décourageant de penser qu'il y a une partie de la jeunesse qui a ces préjugés-là face à l'homosexualité. Sincèrement, je pensais que c'était réglé, là, grosso modo.
Ben, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est préoccupant, puis je pense que c'est symptomatique du fait que il faut qu'on s'occupe de nos jeunes. Hein? Puis que l'éducation à la maison, c'est une partie qui est excessivement importante, mais je pense que l'éducation en société qui se fait à l'école, c'est un incontournable, puis on n'aura pas le choix. Puis à un moment donné, la question de dire on veut pas entendre parler de sexualité à l'école parce que c'est la job des parents, on veut pas entendre parler de des communautés LGBT parce que ça va contre. C'est parce qu'à un moment donné, la société, c'est la société, hein. Puis on a la responsabilité de préparer tous ces gens-là à être capables de vivre ensemble puis de travailler ensemble.
C'est fascinant et décourageant de vous écouter parler. Merci pour ces propos que je trouve candides quand même. Vous n'êtes pas mis la tête dans le sable. C'est très intéressant, Yvois, de vous écouter parler de ça. Merci.
Ça fait plaisir. Merci.
Et merci pour ce que vous faites dans les écoles. Yvois, professeur dans une école secondaire de Montréal. Je vous le disais, il y a comme une recrudescence de l'homophobie, même à l'école secondaire. Ça s'explique en partie là, à Montréal parce qu'il y a beaucoup de communautés chez qui, disons, historiquement, l'ouverture n'est pas au rendez-vous. Merci d'avoir été là.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.